Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, bienvenue, welcome, il n'est jamais trop tard, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis maintenant un sacré bout de temps, va-t-on dire. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer 30 minutes, qui est vraiment une goutte d'eau par rapport à la carrière du susdi, à Gary Cooper, certainement l'un des plus grands acteurs américains de tous les temps, qui aura dominé à tous les sens du terme, puisque Gary Cooper était fort grand, qui aura dominé le cinéma américain de ses débuts, quelque part dans les années 30, jusqu'à sa mort en 1961. Et c'est d'ailleurs les dernières années de sa carrière, au risque de paraître un peu funèbre, que nous allons évoquer, puisqu'il n'était pas vraiment question d'évoquer en 30 minutes toute la carrière de Gary Cooper, qui était né le 7 mai 1901 dans le Montana, et qui commença à faire de la figuration au cinéma en 1925 seulement, donc à l'âge de 24 ans. Mais par contre, il conquit très rapidement la célébrité dès le cinéma muet, en fait, qui, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends, s'est terminé quelque part entre 1929 et 1932. Et puis, eh bien, dans les années 40-50, sa popularité grandit. À cette époque-là, on tournait beaucoup, beaucoup de films. Et par conséquent, Gary Cooper en tourna beaucoup. Ce qui fait qu'au début des années 50, où commence notre émission, eh bien, ma foi, il avait déjà une filmographie riche dans pratiquement tous les genres. Et il avait tourné avec les plus grands réalisateurs américains, notamment déjà avec Raoul Walsh, qui en 1951 donc signe Les Aventures du Capitaine Wyatt, un film qui n'est pas considéré comme l'un des plus grands de Gary Cooper et pas non plus l'un des plus grands de Raoul Walsh. Une histoire qui se passe quelque part vers 1840 en Floride, et plus précisément dans les Everglades, une zone marécageuse où l'on trouve plus de serpents, de moustiques, de caïmans que d'habitants, mais enfin il y a quand même quelques Indiens, et du coup l'histoire tourne comme souvent autour de la cohabitation parfois difficile entre les Blancs, forcément conquérants, pardonnez-moi, et les Indiens, évidemment, attachés à leur terre, à leur tradition, toutes ces choses que justement la civilisation blanche aura contribué à faire disparaître. La musique du film, alors, elle aussi, elle est signée d'un vieux routier du cinéma américain, en l'espèce Max Steiner, et je vous propose, sans plus attendre, d'en écouter un petit extrait, Les Aventures du Capitaine Wyatt. En anglais, ça s'appelait Distant Drums, dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale des Aventures du Capitaine Wyatt, un film tourné par Raoul Walsh en 1951 avec Gary Cooper dans le rôle vraiment principal, puisque j'avoue que tous les autres, je n'en connais aucun, ni Mary Alden, ni Richard Webb, ni Ray Teal, n'ont, semble-t-il, à ma connaissance, accédé à la célébrité. En 1952, Gary Cooper se retrouve en vedette d'un film qui réunit quand même à son générique Gary Cooper et Grace Kelly, c'est-à-dire les deux principaux ou presque acteurs mâles et femelles de l'époque, et puis à leur côté notamment Thomas Mitchell, que personne n'aura oublié en papa de Scarlett O'Hara dans On tend l'emporte le vent. Mais malgré tout, Le train sifflera trois fois, puisque c'est le titre du film, était considéré à l'époque comme une petite production assez courageuse d'un producteur qui ensuite deviendra lui-même un réalisateur plutôt bienvenu, Stanley Kramer, mais qui en 1952 confie à Fred Zinnemann la réalisation d'un western dans lequel on voit un shérif incorruptible, évidemment incarné par Gary Cooper, amené à lutter contre trois tueurs qui sont venus l'exécuter à un moment où, comme souvent ça se passe, toute la ville de laquelle il est shérif l'abandonne et le laisse tout seul par rapport à ces tueurs. Je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est pas vraiment divulgâcher la fin du film que de vous indiquer que Gary Cooper finit par triompher de tous ses méchants et donc par rétablir la loi et la justice dans l'Ouest, un thème ô combien traditionnel, mais qui, par la force du scénario signé de Carl Foreman et aussi par la qualité de la réalisation très sobre, très sèche, très brutale de Fred Zinnemann, sans parler du charisme naturel de Gary Cooper, tout ça fait que Le train sifflera trois fois. High noon in English, high noon étant midi, c'est-à-dire l'heure à laquelle arrive le train, le fameux train qui siffle trois fois, dans lequel se trouvent les tueurs, si vous voulez tout savoir. High noon est désormais considéré comme un des classiques du western et une sorte de film politique, évidemment, sur la lâcheté, les compromissions. L'intrigue est relativement simple, et je ne le dis pas en mauvaise part. Par conséquent, on peut lui plaquer toutes les métaphores politiques qu'on voudra faire. Et puis, un dernier atout pour le film, et non des moindres, bien évidemment, c'est sa musique. Elle est signée, là encore, d'un des géants d'Hollywood, dans l'espèce Dimitri Tiomkin. Et Dimitri Tiomkin, ce n'est pas une partition très très longue, ce n'est pas une partition très très voyante. Le film ne s'y prêtait pas. Mais par contre, il y a dans ce film et dans cette musique un thème que personne n'a oublié et que je vous propose d'écouter sans plus attendre dans 24 notes.
Darling, on this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave. And I must face that deadly killer. Are I a coward, a craven coward? Are I a coward in my grave? Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair half beauty. Look at that big hand move along near in high noon. He made a vow while in state's prison, thought it would be my life or his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving until I shoot Frank Miller dead. Wait long, wait long, wait long, wait long.
Et oui, ça c'est la cloche de midi, vous l'avez entendu, la simplicité faite musique, on ne peut pas faire quelque chose de plus dépouillé, un extrait de la bande originale du Train sifflera trois fois. Alors en anglais, vous l'avez entendu, ça dit « Do not forsake me, oh my darling !» Et en français, c'est « Si toi aussi tu m'abandonnes ». C'est déjà une petite nuance. Bref, un film tout à fait réussi et qui valut à Gary Cooper son deuxième Oscar. Deux Oscars seulement, eh bien oui, deux Oscars seulement. En 1941, il l'avait remporté pour Sergent York. Et donc, en 1952, il remporte son second Oscar. Il avait été nommé, je ne sais plus, 6 ou 8 fois quand même. Mais il n'aura remporté que 3 Oscars. J'y reviens. Gary Cooper, notre héros de ce jour, qui en 1952 signe peut-être son dernier très très grand film, et en tout cas son dernier très très grand succès. Il va encore tourner un certain nombre de films jusqu'à 1961, mais ils ne seront certes pas aussi réussis et ils ne resteront pas autant dans les mémoires que cette vision de Gary Cooper dans les rues d'une petite ville de western, comme on en a vu dans tant de films. Mais il est tout seul et il y a 3 méchants en face de lui. Parmi les méchants, il y a Lee Van Cleef, qui fera plus tard une brillante carrière dans les western spaghetti et autres. Et ma foi, c'est la magie du cinéma, c'est le genre de film iconique qu'on n'oublie pas. On va rester dans le western avec le film suivant, cette fois il date de 1954, ça s'appelle Le Jardin du Diable. Alors là encore, on est un peu, il faut le reconnaître, dans la routine, puisque dans les rôles principaux, aux côtés de Gary Cooper, pardonnez-moi, il y a Susan Hayward, Richard Widmark et quelques autres. À la réalisation, il y a Henry Hathaway. S'il n'a pas réalisé 200 films, c'est qu'il en a réalisé 300. Ma foi, bon, Le Jardin du Diable, Garden of Evil, est un western plutôt bienvenu. Je dirais que sa seule particularité, c'est que sa bande originale, qu'on va écouter bien sûr, elle est signée de Bernard Herrmann, qui fut, les fans de 24 notes secondes s'en souviendront, le compositeur fétiche d'Alfred Hitchcock sur une petite dizaine de films dans mon souvenir, et qui signa par ailleurs bien d'autres partitions mémorables, mais qu'on trouve à peu dans le genre du western. Donc raison de plus pour écouter avec curiosité et intérêt un extrait de cette bande originale, Le Jardin du Diable dans 24 notes secondes. Un extrait bien hermanien pour le coup de la bande originale du Jardin du Diable. En fait, ça ressemble pas beaucoup à une musique de western, telle qu'on l'entend sont les canaux musicaux, mais par contre c'est tout à fait une musique de Bernard Herrmann, donc pour ce film de Henri Hathaway qui était le 81e film de Gary Cooper, mais hélas l'un des derniers puisque la maladie qui allait l'emporter était sans doute déjà là en 1954. Ça ne l'empêcha pas de tourner encore, et notamment en 1956 on le vit au générique de La Loi du Seigneur en français, et Friendly Persuasion in English, qui veut dire persuasion amicale, un film consacré aux Quakers et qui, évidemment, s'inscrit dans les débats qui agitent le monde américain, à vrai dire plus que le nôtre, puisque les Quakers, notamment, se doivent d'aimer leurs prochains, s'opposent à l'esclavage, etc., etc., ne doivent pas recourir à de la violence, et du coup, évidemment, le but d'un scénario est de les mettre face à leurs contradictions dans un contexte américain qui est toujours plus ou moins marqué par la violence. Alors le film réunit aux côtés de Gary Cooper, Dorothy McGuire et Anthony Perkins, qui en 1956 n'est pas encore le Norman Bates de Psychose, donc peut encore jouer des rôles normaux, si je puis dire. Le film obtient la Palme d'Or du Festival de Cannes cette année-là, ma foi, avec au risque d'être un peu brutal et désobligeant, c'est un peu exagéré, car la réalisation de William Wyler est des plus classiques. La bande originale ne l'est pas moins, mais ça nous donne l'occasion d'écouter à nouveau ce cher Dimitri Tiomkin après High Noon et Tis-toi aussi, tu m'abandonnes. Un extrait, donc, La Loi du Seigneur, Friendly Persuasion in English, dans 24 notes secondes. je ne vous l'ai pas dit avant, je vous le dis maintenant, c'était Pat Boone qui nous interprétait la chanson du film, comme on disait à l'époque, un extrait de la bande originale de La Loi du Seigneur, un film de William Wyler que personne n'a oublié comme réalisateur de Ben-Hur, mais il me semble que lui non plus n'avait pas encore tourné Ben-Hur en 1956, un film donc dans lequel Gary Cooper retrouvait l'un de ses derniers grands rôles. Il va encore tourner un certain nombre de films et notamment un western. C'est quand même un genre dans lequel Gary Cooper se sera tout particulièrement épanoui sous la réalisation de quelques-uns des grands réalisateurs américains, et notamment d'Anthony Mann, avec lequel il tourna plusieurs westerns tout à fait réussis. C'était à vrai dire le cas de L'Homme de l'Ouest. Bon, c'était pas non plus peut-être le plus grand western de tous les temps, et pas un classique comme a pu l'être High Noon 2 ou 3 ans avant. Mais ma foi, L'Homme de l'Ouest, Man of the West, est un film tout à fait bienvenu, avec un Gary Cooper, là encore, tout à fait impressionnant, avec à ses côtés des seconds acteurs comme Lee Jacob, qu'on reverra notamment dans les films d'Elia Kazan des années 60, généralement dans le rôle de méchant. Et puis il y avait surtout la délicieuse Julie London, qui était l'alter ego féminin du film. Julie London qui fera une toute petite carrière en tant que comédienne, mais qui par contre fera une très belle carrière en tant que chanteuse. Et du coup, L'Homme de l'Ouest nous permet de concilier les deux, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale de ce film, qui était signé de Leigh Harlin, un compositeur, assez peu connu. Mais donc, Leigh Harlin avait composé « Je vais y arriver, Man of the West » pour Julie London, qu'on écoute maintenant sans plus attendre, parce qu'il y en a marre des balbutiements dans 24 notes secondes. C'est donc la délicieuse Julie London qui est à la fois l'actrice principale et l'interprète de la chanson de L'Homme de l'Ouest, un film d'Anthony Mann qu'on a plutôt connu allié à James Stewart. C'était d'ailleurs un des rares films dans lesquels il mettait en scène Gary Cooper, L'Homme de l'Ouest, qui fut considéré par Jean-Luc Godard cette même année comme le meilleur film de l'année. Ma foi, Jean-Luc Godard fut bien seul. Quant à Gary Cooper, en 1959, il tourna encore 4 films, mais sa carrière était pratiquement achevée, puisqu'en 1960, eh bien, les médecins lui découvrirent un cancer que, à l'époque, on faisait ça, ils préférèrent lui taire, ce qui permit à Gary Cooper d'aller tourner en Angleterre La Lame Nue, un film de Michael Anderson, qui sera son dernier film, le 91e, si je ne m'abuse, qui sortira d'ailleurs après sa mort, puisque Gary Cooper s'éteindra le 13 mai 1961, soit 6 jours avant son 60e anniversaire. C'était vraiment peu de dire qu'il est parti bien prématurément, ça ne l'a pas empêché de tourner plus de 90 films, de rester l'un des icônes du cinéma américain de tous les temps. Gary, on te salue et on écoute un extrait de cette bande originale. Le film s'appelle La Lame Nue, une musique de William Alwyn dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Bye bye.